Alors moi, je vous salue. Je me présente, je m'appelle Maude Millier et je représente l'Union départementale CGT du Rhône et de la métropole de Lyon. À titre personnel, je suis ni auteur ni artiste et j'ai souhaité être présente aujourd'hui pour animer cette table ronde, considérant que toutes les œuvres que vous faites et la culture d'une manière générale, elle doit justement servir alors à l'ensemble de la population, des citoyens, des citoyennes, mais aussi à l'émancipation des travailleuses et des travailleurs. Donc, d'où ma participation aujourd'hui. Je remercie le SNAP CGT pour cette formidable initiative sur la journée et pour ces différentes tables rondes. Donc, chaque intervenant va se présenter. Hein, et puis, donc cette table ronde s'intitule « Vers une continuité des revenus pour les artistes auteurs ». Donc, on a vu précédemment ce qu'il existait déjà. Et là, on va chercher à s'interroger sur ce qu'on peut gagner. Donc, je vais commencer à passer la parole à Aurélien, qui va se présenter, du coup, dans la foulée.
Je m'appelle Aurélien Catin, je suis auteur. Je viens de Paris. Je viens de débarquer du train. Je suis assez impressionné d'être face à vous. Je suis membre de l'ABUS, d'un collectif qui est plutôt dans le champ des arts plastiques et qui réfléchit aux conditions de travail et dans le champ de l'art et plus généralement dans les milieux de la création. Je fais aussi partie d'un syndicat qui n'est pas la CEGET, qui est la CNT Solidarité Ouvrière. On est très camarades. D'ailleurs, il se passe quelque chose conjointement à Marseille dans 2 jours, entre la CNTSO et la CGT. Et que dire d'autre ? Je bosse, moi, en tant qu'auteur, principalement sur l'objet de ma militance, ce qui fait que je suis militant semi-professionnel, puisque je gagne ma vie en parlant de mon militantisme. Et je suis co-rédacteur de cette famous brochure. Voilà. Et je remercie également le SNAP CGT, qui est la véritable, dans tout ce mouvement pour aller chercher une continuité de revenus, qui est la véritable locomotive organisationnelle de tout ce qu'on est en train de faire. Merci, le SNAP.
Merci Aurélien. Alors, je laisse Mathilde se présenter.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Erazzori, je suis formatrice. J'ai fondé un organisme de formation qui s'appelle MAISE et qui est basé à Lille. J'arrive un peu plus tôt coréen de Lille tout à l'heure. Oui, c'était tôt ce matin, je veux dire. On travaille principalement sur le cadre administratif des activités de l'art contemporain. Donc, j'anime des formations auprès d'artistes auteuristes, mais également, c'est un peu la particularité de MAISE, auprès de structures de diffusion, donc de salariés, de centres d'art, FRAC, associations, collectivités territoriales, qui sont amenés à rémunérer des artistes auteuristes et qui peinent régulièrement, souvent au niveau administratif. Par ailleurs, alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai aussi écrit et produit la web-série qui s'appelle « Au secours, je suis artiste » et qui est diffusée par le CNAP et sur YouTube. Voilà, 19 épisodes pour avoir tout le cadre administratif. De 2 minutes 30 chaque épisode. Voilà. Et par ailleurs aussi, je suis coprésidente d'un tout jeune réseau national qui est le réseau Ressources Arts Visuels, qui est un réseau, alors c'est le réseau des actrices de la ressource, c'est-à-dire on fédère les structures qui font du conseil, de l'information ou de la formation professionnelle à destination des professionnels de l'art contemporain. Donc notre objectif, c'est de nous structurer, de réfléchir à nos métiers et non pas de proposer des fiches ressources. Hein. Voilà, donc on essaye de penser un peu les choses, les questions de déontologie, de posture professionnelle dans ces métiers de l'accompagnement et de la formation. Voilà, déjà pas mal.
Merci Mathilde. Alors on va passer le micro à Irène qui va se présenter aussi.
Oui, bah, rebonjour. Et donc, je suis Irène Wojniewski, je suis plasticienne, scénographe et actuellement co-secrétaire générale du SNAP CGT, dans lequel je milite depuis de nombreuses années. Pas toujours, malheureusement, avec succès, mais l'avenir est à nous.
Merci Irène. Alors, merci de votre présentation. Donc, en introduction, je m'étais noté, nous devons chérir la création, celle qui nous révèle, je l'avais vu dans le petit bouquin que tu nous as présenté, Aurélien. Celle qui nous révèle, qui nous relie, qui nous fait vibrer, nous interroge et nous rend libres. Et nous devons donc chérir la création, mais face à la loi du marché, des autoritarismes, des intégrismes. Donc beaucoup de questions qui se posent à nous. Au regard de l'urgence sociale et de l'urgence culturelle entremêlée, quels droits sociaux pour les artistes auteurs ? Donc, nous, on part bien évidemment du principe que c'est donc un travail qui est réalisé et qui doit être reconnu dans toutes ses composantes à ce titre-là. Alors peut-être que dans un premier temps, on peut passer la parole à Aurélien sur son domaine d'activité, qui est à la fois la question de la rémunération, mais aussi des droits sociaux en général. Alors, sur quoi tu peux intervenir ? Alors, dans le monde tel qu'il est piloté aujourd'hui, et face au fait que vous êtes rémunéré sur le patrimoine, hein, voilà, on peut donc s'étonner de l'absence d'un mécanisme, alors à la fois tel que l'assurance chômage ou peut-être peut-être plus, qui pourrait garantir donc vos droits. Quelle proposition on pourrait formuler dans le contexte actuel ?
La proposition, elle a été introduite par Irène dans la fin de sa présentation. C'est notamment celle d'aller chercher ces droits sociaux qui nous manquent, puisque, comme ça a été dit, nous avons déjà un certain nombre de droits qui sont ceux des salariés du privé, en termes d'assurance maladie, de retraite, de prestations familiales. En revanche, pas de congés payés, pas d'accident du travail et maladie professionnelle, et surtout pas d'assurance chômage, ce qui fait une différence assez fondamentale en termes de conditions avec nos camarades interprètes, par exemple, qui bénéficient du fameux régime de l'intermittence, qui assure une continuité du salaire et du statut de salarié, de façon temporaire, mais entre les contrats, entre les emplois. C'est tout l'objet de la fameuse brochure sur la continuité du revenu, hein, qui a été co-rédigée par des gens donc, du STA, de la BUS, du SNAP-CGT, et par un camarade du Parti communiste, Jean-Jacques Barret, que je salue, puisque c'est Jean-Jacques qui est venu nous chercher pour faire cette proposition de loi. À l'origine, c'était une idée qu'on avait eue, notamment avec la BUS, et dont on avait fait une tribune, et ensuite il a fallu, transformer ça en proposition plus concrète, plus défendable dans l'immédiat, parce que nous, c'était un peu plus ambitieux en termes de seuil d'accès et de montant d'indemnisation. Mais c'est sa traduction en langue législative. Voilà, je ne sais pas si tu veux que j'en parle immédiatement, ou si la parole doit circuler.
On peut peut-être faire tourner un petit peu, et puis après, effectivement, la traduction législative, elle se posera effectivement à un moment donné. Peut-être, Mathilde, donc vis-à-vis, donc toi, par rapport à ton activité, voilà, on peut considérer aujourd'hui peut-être que l'absence de droit, ça étouffe un petit peu la création, et c'est un peu la double peine, du coup, pour les artistes également. Ça crée également une violence, et il faudrait pouvoir gagner un statut émancipateur pour toutes et tous. Il y a peut-être aussi alors ça fait beaucoup de points d'intervention, mais peut-être aussi la situation des femmes qui est du coup en plus particulière dans ce domaine-là.
Je ne sais pas si je suis plus compétente qu'Aurélien pour parler de la situation des femmes, parce que voilà. Mais alors, en fait, je vais peut-être. Moi, je trouve que la proposition. Alors, j'ai pas du tout participé. Je tiens à préciser vos travaux de la BUS. C'est important. Dans mon travail, je suis régulièrement amenée à expliquer ce que c'est que la rémunération artistique, de fait et d'un point de vue purement et simplement administratif. Donc, expliquer. Ok, là, concrètement, techniquement, en lisant le code de la sécurité sociale, le code du travail, etc. Où en est-on de la législation actuellement? Et alors, je considère que c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de statut de l'intermittence, il n'y a pas de statut des artistes autoristes, et je ne suis pas, moi, dans mon activité, persuadée que ça soit bien qu'il y ait un statut, au sens où il y a des régimes et que le cadre administratif français, il fonctionne en fonction de l'activité qu'on exerce. Ce que j'observe, moi, souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes autoristes qui se privent d'être rémunérés sous la forme de salaire, que ce soit sur des activités qui ont déjà un lien de subordination, ça a été cité par Irène d'ailleurs tout à l'heure. Je pense aux activités de médiation, de régie, d'assistant d'artiste. Dans certains cas de figure, c'est des activités qui, dans leurs conditions d'exercice, relèvent déjà du contrat de travail salarié au régime général, classique par contre, qui est moins avantageux que le régime d'allocation chômage de l'intermittence. Et il y a des activités qui, de droit, obligatoirement, c'est quand même le principe de ce régime d'allocation chômage de l'intermittence, relève d'un contrat de travail salarié et il s'agit des artistes du spectacle, y compris, je le rappelle, depuis 2016, les réalisateurices, sans qu'il ne soit précisé qu'il s'agit de réalisateurices de cinéma, de films diffusés à la télévision. Je ne vois pas pourquoi des vidéastes ne pourraient pas relever de ce régime-là quand il ou elle réalise une résidence de création d'une vidéo qui sera à terme exposée en centre d'art sur un moniteur ou vidéo projetée. En fait, d'un point de vue purement et simplement administratif, on s'en fout, en fait. Il s'avère que c'est juste un ou une réalisateuresse. Donc, en fait, si, pardon, je suis un peu longue, mais parce que un peu technique aussi, en fait, en réalité, si on mettait déjà, si on appliquait la loi, eh bien, en fait, voilà, je reviens sur cette histoire de statut, à force de se positionner en « je suis artiste auteuriste, j'ai un statut ou pas, d'ailleurs », en fait, on se précarise, c'est un peu le sentiment que j'ai, puisque la performance, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, une artiste auteuriste qui interprète une performance, je suis désolée, c'est un artiste interprète, et en plus de ça, il aura des droits d'auteuriste pour l'exploitation de son œuvre. Bref, il n'y a pas que le revenu du patrimoine, mais par contre, le ministère de la Culture actuellement est revenu sur une vision extrêmement patrimoniale de l'art contemporain, se retourne vers ça, c'est une catastrophe absolue, alors qu'on avait vu un peu la lumière en 2011. Là, on rebascule dans une situation, à mon sens, catastrophique, où effectivement, on efface le travail artistique. Donc, je conclue. En gros, ce que j'essaie de défendre, moi, c'est il y a un code du travail, appliquons-le. Essayons d'arrêter de penser en termes d'appartenance, même si c'est important, à une profession, mais plutôt en termes d'activité. Quelle est l'activité que j'exerce là? Et est-ce qu'elle ne relèverait pas plutôt d'un autre cadre administratif plus sécurisant? Et soyons vigilants sur ce qui est actuellement en jeu au sein du ministère et des politiques culturelles de l'État. Voilà. Je n'ai absolument pas du tout répondu à ta question, mais voilà.
Merci Mathilde. On passe la parole peut-être à Irène. Quelle proposition CGT, Irène, on peut proposer, on peut, alors les organisations syndicales, elles ne font que des propositions revendicatives, il n'y a pas de de traduction législative, du moins c'est pas leur domaine de compétence, mais quelles sont les propositions qui peuvent être faites?
Alors, d'une part, je voudrais revenir un petit peu par rapport à ce qu'a dit Mathilde sur cette histoire de statut. Parce qu'en fait, effectivement, sur l'activité d'artiste-auteur en général, c'est comme tu le disais, c'est du patrimonial. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est rémunéré? C'est tout sauf le travail. Enfin, c'est tout. Et quelquefois, c'est rien. Mais tout sauf le travail. Je veux dire, le travail de l'artiste-auteur n'est jamais pris en compte. C'est l'exploitation de son œuvre qui va générer des revenus. C'est pas son travail. Donc, c'est vrai que moi, ça fait à peu près 25 ans que j'essaye de me battre sur cette histoire de reconnaissance du travail artistique au sein du SNAP. Donc, il y a très longtemps, on avait essayé d'élaborer un modèle qui se rapproche d'ailleurs, quand on voit les modalités, j'ai regardé ça un peu, ça se rapproche assez de ce à quoi on est abouti là, d'un revenu de base à la création, ça s'appelait comme ça, ou allocation de base à la création, oui c'est ça, ABC à l'époque, enfin c'était il y a 20 ans. Et donc là on a participé, moi personnellement j'ai pas pu pour des raisons de bête d'emploi du temps, j'ai suivi les réunions au début de l'élaboration de cette magnifique brochure que vous allez tous lire avec attention, j'en suis sûre, mais le SNAP-CGT a participé activement à l'élaboration de cette proposition, voilà, pour bâtir une continuité des revenus. C'est-à-dire que en fait, on a été un peu poussé aussi par le Covid, parce que on s'est aperçu, même si beaucoup, beaucoup d'artistes-auteurs n'ont pas pu en bénéficier. Une minorité d'artistes-auteurs en a bénéficié, il faut bien le dire, mais pendant le Covid, on a pu bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide aux entreprises. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait 300 balles, 500 balles, 600 balles qui tombaient tous les mois. Ah tiens, c'est bizarre, on n'a pas l'habitude. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, pour que ça dure, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, et c'est à ça qu'on a travaillé avec Aurélien.
Merci Irène. On peut peut-être revenir à toi Aurélien, parce qu'il y a là, effectivement, il y a la question de la continuité des revenus. Tu l'as dit, mais il n'y a pas que la notion de revenu, il y a aussi l'ensemble des droits sociaux auxquels légitimement vous devriez avoir droit.
Oui, et au-delà de la continuité et de la permanence du revenu, il y a aussi la question de la permanence d'un statut, pas au sens de statut d'artiste, mais statut de travailleuse et de travailleur, hein, qui ne soit plus uniquement dépendant d'un employeur ou de notre capacité à vendre des prestations ou à vendre des œuvres. Ça, c'est la préhistoire de la rémunération, c'est le capitalisme, c'est ce dont on doit sortir avec urgence. Et pour ça, il faut que le salaire précède l'activité. Je crois que c'est un peu une intention qu'on a mise dans cette loi, même si finalement on peut dire aussi que c'est juste rattraper un retard des artistes auteurs en rentrant dans l'assurance chômage. Alors je peux expliquer, je crois, en 9 minutes cette proposition de loi. Comme l'a dit Mathilde, il n'y a pas de cadre administratif naturel qui correspond ici à la création, ici à l'interprétation, ici à je ne sais pas quoi, au travail industriel ou quoi. Tout ça, c'est des questions de convention, de rapport de force, de construction des droits. Quand on regarde un peu ce qui se passe pour les artistes auteuristes, on voit effectivement une importance du côté patrimonial, c'est-à-dire de la rémunération à travers le droit d'auteur, de la propriété, mais pas que. Moi, j'ai tendance à dire que ce non-statut, parce que c'est vrai, ce n'est pas un statut, quand on parle d'artiste autoriste, c'est un régime de sécurité sociale. Mais en tout cas, si on devait décrire une forme de statut pour les artistes créatrices et créateurs, on peut dire qu'il est hybride. En gros, ça se voit à travers ces modes de rémunération. Il y en a trois, il y a trois grands piliers. Le premier mode de rémunération, effectivement, c'est le mode patrimonial. C'est le droit d'auteur comme revenu. Donc là, ce n'est pas le travail qui est payé. Hein. On a fait une activité par le passé qui nous rend titulaire d'une œuvre, qui nous donne une propriété sur une œuvre. Et donc l'œuvre devient un patrimoine. Et si ce patrimoine fructifie sur un marché, à ce moment-là, j'en tire une rente. Mais je suis payé comme propriétaire, pas comme travailleur. C'est important de bien comprendre cette distinction. Et ça a été assez central dans la construction de la condition des créatrices et des créateurs depuis la Révolution française. Le deuxième pilier de rémunération, alors là, on est plus dans du travail. C'est tout ce qui va passer par les honoraires, par la facture ou par le dérivé de la facture, la note d'auteur. Voilà. Donc là, par exemple, vous êtes plasticienne, vous vendez des conférences, des workshops, des interventions en éducation artistique et culturelle, ou des œuvres uniques, vous faites des factures, vous êtes payé à la pièce ou à la tâche. Donc là, on est dans le cadre du travail indépendant, situation typique de travail indépendant, avec une rémunération à la performance, mode de rémunération classique dans le capitalisme. Et enfin, le dernier mode, c'est un mode que j'appelle palliatif, sont les aides à la création. D'accord ? Donc là, on n'est pas payé parce qu'on travaille, on est payé parce qu'on fait des choses utiles, sympas, éventuellement, mais on est des artistes, donc on est incapable, donc on nous aide. Voilà. Donc là, on est dans l'assistance. Ça reconduit aussi le mécénat. Alors on l'utilise un peu différemment, nous. Nous, on l'utilise comme une avance monétaire pour pouvoir travailler comme on l'entend. Mais dans la logique, ce n'est pas le travail qui est rémunéré. Malgré ça, on a une quatrième composante, hein, donc là il y a propriété, travail indépendant et assistance, on a une quatrième composante dans ce non-statut qui est une composante salariale, ça a été dit, hein, ça a été présenté par Irène, puisque pour l'assurance maladie et la retraite notamment, nous avons les mêmes droits que les salariés du côté du régime général de sécurité sociale. Irène l'a expliqué comment ça marche, on prend l'ensemble des revenus déclarés sur l'année précédente, et on les convertit en heures SMIC. Hein. Donc, revenus divisé par le taux horaire du SMIC. Si j'ai gagné l'année dernière 6 912 euros bruts, si j'ai déclaré 6 912 euros bruts comme auteur, ça fait 6 912 par le taux actuel du SMIC horaire, 600 heures SMIC. Et 600 heures SMIC, c'est le seuil pour valider une annuité de retraite pour tous les salariés du privé, permanent, intermittent, et pour les artistes autoristes. C'est le même pour tous. Évidemment, on l'a déjà dit, il y a des droits qui manquent, et notamment celui à l'assurance chômage. Alors, ça a aussi été évoqué par mes camarades de gauche, on a des artistes, d'autres artistes, les interprètes, qui bénéficient déjà de l'assurance chômage. C'est le fameux régime de l'intermittence. Et d'ailleurs, ça a tellement d'importance dans leurs conditions et dans leur vie qu'on a tendance à les désigner du nom de leur régime d'assurance chômage. On dit « ce sont des intermittents ». Comment ça fonctionne? Alors, ce n'est pas le même mode de rémunération que nous, hein, c'est plutôt un mode salarial, ce sont des cachets. Donc les cachets, ce sont des tarifs, des grilles tarifaires. Et par convention, l'assurance chômage considère qu'un cachet, ça vaut 12 heures. Là encore, c'est une convention. Il n'y a pas 12 heures effectives. Si je fais une heure sur scène, c'est 12 heures le cachet. Quand j'ai fait 43 cachets, ça fait 43 x 12, 507. Si j'ai fait 43 cachets sur les 12 derniers mois, j'accède à l'indemnisation. J'ai fait mes 507 heures. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On calcule un salaire journalier de référence sur mes jours travaillés, sur mes jours ouvrés, sur mes jours dans l'emploi. Et de façon temporaire, bien sûr, ça va durer un an et il va falloir que je refasse les 507 heures. Tout ça, c'est des conquêtes imparfaites. Mais de façon temporaire, entre mes emplois, mon salaire va passer à ma personne. Il n'est plus lié à mon contrat de travail, il est lié à ma personne. C'est ça le principe de l'assurance chômage. Donc vous voyez qu'il se passe quelque chose qui n'est pas négligeable en termes de signification politique. Le salaire passe du contrat à la personne. C'est de la musique contemporaine. Donc on a une discontinuité de l'emploi, une discontinuité des engagements, mais une continuité du salaire tant qu'on est dans l'indemnisation, et une continuité aussi du statut de salarié. La proposition qu'on fait dans la fameuse brochure sur la continuité du revenu, c'est d'inscrire les artistes autoristes, l'ensemble des artistes autoristes, dans la caisse commune de l'assurance chômage. Donc ça, c'est la première étape de notre proposition de loi. C'est on rentre dans l'assurance chômage. Vous savez que l'assurance chômage, c'est la même pour tout le secteur privé. Hein. Quand on parle de régime de l'intermittence, c'est un excès de langage. Il n'y a pas une caisse à part. C'est la même caisse pour tout le monde. Et après, effectivement, il y a des annexes à la convention UNEDIC en fonction de caractéristiques de certains secteurs. On a des règles qui peuvent un peu varier. Mais il faut savoir qu'en 79, quand le régime de l'intermittence prend sa pleine expression, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Hein. Les 3 mois sur les 12 derniers mois, c'est pour tout le monde. 3 mois, c'est ce qui correspond aujourd'hui aux 507 heures. À l'époque, c'est pour tout le monde. Sauf que depuis, les salariés permanents ont perdu progressivement leurs droits, réforme après réforme, alors que les intermittents sont les seuls qui ont réussi à conserver les règles de 79. Donc là, on est sur des règles communes, on n'est pas sur des régimes spécifiques. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc nous, on veut rentrer dans la même caisse que tout le monde. Ensuite, ce qu'on propose, alors là, ça se ferait, on se dirige plutôt vers une nouvelle annexe, plutôt que vers un ajout à l'annexe des artistes du spectacle. Une fois qu'on est rentré, qu'on fait rentrer tout le monde dans la caisse de l'assurance chômage, voici les règles. Comme plasticienne, comme autrice, par exemple, si vous avez fait sur la dernière année, si vous avez déclaré sur la dernière année, au moins 300 heures SMIC, ce qui correspond à un revenu brut de 3 456 euros, eh bien bravo, vous accédez à l'indemnisation. Voilà, 300 heures SMIC. Alors pourquoi on n'a pas mis 600 heures, ce qui correspond plus ou moins aux 507 heures intermittence? Eh bien parce que si on met 600 heures SMIC, on a 77% des artistes autoristes qui sont en dehors. Voilà. Donc l'intérêt de dire on va peut-être faire une autre annexe, c'est de questionner, de dénaturaliser les seuils aussi, et de pouvoir les questionner. Une fois que vous êtes dans l'indemnisation, c'est ce qu'on a mis dans la proposition, la caisse de l'assurance chômage vous garantit, je vous donnerai peut-être les modalités si, un peu plus tard, techniquement, comment ça se passe, parce que ça se chevauche comme dans l'intermittence, mais globalement, la caisse de l'assurance chômage vous garantit au moins 85% du SMIC net, c'est-à-dire en l'état, 1150 euros net par mois. Okay, vous faites 3456 sur l'année, et vous avez 1150 par mois. Comme c'est un nouveau droit, et pas dégueulasse en plus, on va nous dire, ok, vous voulez un nouveau droit, mais qu'est-ce que vous apportez? Ça, c'est le truc classique. Hein, malheureusement, il y a encore des logiques comptables dans ces grandes caisses comme la Sécu ou l'assurance chômage. Et ce qu'on propose, c'est de regarder du côté de nos diffuseurs, qui ont l'équivalent d'une part de cotisation patronale 45 fois inférieure à ce qui se fait dans le secteur du spectacle. Donc on dit, on va la monter un tout petit peu. Aujourd'hui, la contribution diffuseur, c'est 1,1% de la rémunération brute, hein, c'est-à-dire que quand vous touchez comme artiste 100 euros de rémunération brute, votre diffuseur met en plus 1,10 euro pour financer la formation professionnelle et la sécu. Dans le spectacle, c'est 46 euros en plus. Hein. Petite différence, nous, on dit on va ajouter la part chômage de la contribution employeur, c'est-à-dire 4,05%. On va porter la contribution diffuseur de 1,1% du brut à 5,15%. Je finis sur les effets attendus. ça prend une minute. Le premier effet, évidemment, c'est une amélioration immédiate de la condition de dizaines de milliers de créatrices et créateurs. On a regardé les chiffres de l'URSSAF qui datent de 2021. On aurait en gros 76 000 personnes qui rentreraient dans le dispositif, à peu près 30 000 qui n'en auraient pas ou peu besoin parce que leurs revenus sont suffisamment, on va dire, élevés et stables. Donc là, c'est plutôt dans des professions comme designers, photographes, graphistes. Et puis, on en aurait plus de 45 000 dont la vie serait changée. Et ce serait beaucoup de gens dans les arts plastiques, parce que c'est un parent pauvre de la création. Deuxième effet attendu, c'est une ouverture du champ professionnel à des profils sociologiques plus divers, parce qu'aujourd'hui, on va dire que seuls les bourgeois peuvent attendre 7 ans, 8 ans, 10 ans de savoir s'ils vont percer. Très clairement. Troisième effet, c'est le titre de la brochure, une garantie de la continuité du revenu et du statut de travailleur. Ça, c'est très important de sortir le statut de travailleur de l'arbitraire des employeurs et de l'arbitraire des commanditaires. On ne dépassera pas la situation économique dégueulasse actuelle si on ne passe pas à ce type de droit. Et donc, j'en viens au quatrième effet attendu. Et là, je prends une petite liberté par rapport à ce qui est écrit dans le livret, ça va un peu loin, mais c'est moi qui le dis. C'est commencer à avancer sur la voie du salaire comme droit de la personne. C'est-à-dire le salaire précède l'activité. Ça ne va plus être la récompense d'un travail subordonné et aliéné, ça va être la condition d'un travail libéré, en l'occurrence, un travail artistique libéré. Je m'arrête là.
Merci beaucoup. Oui, Mathilde.
C'est moche, parce que j'ai l'impression de... Alors, je précise quand même, en amont de mon propos, que je trouve cette proposition formidable, particulièrement fine et bien rédigée, et que j'appelle de mes voeux qu'elle soit mise en œuvre. Ceci étant, en fait, je pensais, j'imagine que vous avez travaillé sur la carte artiste dans le régime belge, et en fait, j'avais il y a quelques temps, et c'est pas du tout à jour, donc prenez pas ce que je vais dire comme strictement ce qui est encore en application actuellement, mais en fait, ce qui se passait en Belgique, c'est que finalement, la carte artiste, on va dire, c'est grossièrement l'équivalent du régime d'allocation chômage et intermittence en France, c'est pas tout à fait le cas, enfin voilà, bref, mais c'était ouvert, la particularité, c'est à tous les secteurs de la culture. Et en fait, je m'étais aperçu en faisant des recherches, en contactant l'équivalent de Pôle emploi en Belgique, que les revenus pris en compte, c'était encore une fois les revenus du patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire le transvasement entre les revenus perçus et un nombre d'heures qui ouvre des droits à ce régime, on ne prenait en compte... Alors, tous à fait, je suis étonnée, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même aussi les allocations de résidence, y compris de résidence de recherche, qui financent le travail, pour le coup... qui finance pas le travail, qui indemnise le temps de travail, parce qu'on est loin, quand on a 1 000 euros d'allocation de résidence, de réellement être toucher une rémunération correcte, mais bref. Et du coup, je m'étais fait cette réflexion, et j'en arrive à mon second point, c'est aussi, et là en France, moi j'observe un peu la même chose, ce que je disais, c'est que le ministère, là actuellement, il y a quand même eu une circulaire qui a été publiée le 12 janvier 2023, qui est une, à mon sens, une catastrophe pour le régime, et qui a diminué très largement l'assiette sur laquelle les structures de diffusion vont pouvoir contribuer au régime de sécurité sociale. Et ayant fait un joyeux rendez-vous au ministère de la Culture à ce sujet, j'ai été encore plus catastrophée par les réponses qui m'étaient formulées. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ou peut-être après, mais en fait, on voit très bien aussi que là, on est en train de casser précisément à cet endroit de la contribution diffuseur et, truc de dingue, les structures de diffusion, notamment, alors nous, on est monté au créneau avec le réseau ressources arts visuels parce que voilà, ça nous semblait important, mais il y a des réseaux comme Art en Résidence qui ont toutes les structures qui sont dans ce réseau parce qu'elles font des résidences artistiques. Parce que ce que dit cette circulaire, c'est la contribution diffuseur n'est plus due sur les allocations de résidence. Elle n'est plus non plus due... Waouh, c'était bizarre comme phrase. Elle n'est plus due non plus sur les activités dites accessoires et sur Enfin, en gros, ce que dit le ministère, c'est que s'il n'y a pas de diffusion d'une œuvre, donc on revient à l'exploitation de l'œuvre, à la vision patrimoniale, etc., eh ben, ce n'est pas une rémunération. Alors c'est important ça, hein, parce que dans le Code de la Sécurité sociale, très précisément à l'article R382-20 du Code de la Sécurité sociale, mais également à l'article L382-4, on nous dit la contribution diffuseur, elle est due sur les rémunérations brutes versées aux artistes auteuristes des arts graphiques et plastiques. Ok, donc moi je pose la question, c'est quoi, ça veut dire quoi rémunération, puisque en fait sur cette proposition, c'est ça qu'il va falloir pour une fois pour toutes régler. C'est quoi les rémunérations artistiques? Moi j'ai l'impression que là quand même, si on veut qu'un truc fonctionne, il faut qu'on rappelle ça. Et le ministère de la Culture me répond, ce sont les droits d'autorise. Donc, pas le travail artistique. Pas la recherche en amont, pas la production de l'œuvre. Voilà, ce sont les droits d'autorise. Donc là, il y a une interprétation totalement abusive de la part du ministère de la Culture, surtout que du côté des artistes autoristes, ce que l'on appelle rémunération brute, comme l'a dit Irène tout à l'heure, c'est bien le bénéfice de l'entreprise. Donc, y compris les allocations de résidence, y compris les bourses de production, d'aide à la production que vous avez, ça va intégrer vos recettes, donc par définition, ça se retrouvera dans votre bénéfice. Donc, en fait, rémunération ne veut plus dire la même chose du côté, que l'on soit du côté artiste-auteuriste, pour le calcul de vos cotisations sociales, et du côté des structures de diffusion. Encore une fois, je rappelle que ces structures de diffusion essayent, et même ont essayé de façon dérogatoire, de continuer à contribuer au régime, ça leur a été refusé. Donc en fait, si on doit compenser par le 1,1%, comment allons-nous faire, quoi, concrètement, tu vois? Enfin, c'est une vraie question.
À toi, Irène.
Oui, je viens d'apprendre, en fait, ça m'avait échappé, ce que tu viens de dire, Mathilde, je trouve ça absolument gravissime. Ouais. Je sais que les diffuseurs ont toujours été très, 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 très doués pour s'exonérer de leur contribution au régime de sécurité sociale des artistes auteurs. Pour la mise en place de la formation professionnelle, ça nous a demandé 10 ans pour que la contribution des diffuseurs passe de 1% à 1,1%. Il a fallu bagarrer pendant 10 ans pour obtenir ça. Tac. Voilà. Et là, alors, par exemple, il y avait des trucs bizarres du genre les galeries de photographie n'étaient pas assujetties à la contribution diffuseur. Les sociétés de vente volontaire n'étaient pas assujetties à la contribution diffuseur. Les loueurs de murs ne sont pas assujettis à la contribution diffuseur. Enfin, il y a plein de gens qui échappent comme ça. Et là, maintenant, on s'aperçoit avec cette circulaire ou ce décret que, d'un seul coup, c'est tout un tas de rémunérations qui sont totalement intégrées à titre principal, certaines à titre accessoire, mais d'autres à titre principal, comme par exemple les résidences, c'est du revenu artistique principal, c'est même pas du revenu accessoire, et paf, d'un seul coup, il n'y aura plus de contribution diffuseur dessus. C'est-à-dire que c'est toujours un peu la même... Enfin, je vois bien d'où vient cette entourloupe, parce que c'est un petit peu la ligne qu'on a depuis 4 ou 5 ans au ministère de la Culture, de faire ça toujours sous couvert de simplification, je ne sais pas quoi. Et puis alors c'est très très bien, parce qu'on va nous dire après, enfin je veux dire, le hold-up sur la sécu, il est généralisé, quoi. Entre les exonérations de cotisations de ceci, cela, les milliards d'exonérations de cotisations patronales, la suppression de la cotisation maladie, puisque maintenant c'est entièrement basculé sur la CSG, qui n'est pas une cotisation mais une contribution, donc c'est autre chose, c'est l'État qui a la main dessus, c'est plus les partenaires sociaux. Enfin, la Sécu, elle est dépouillée en permanence, et là j'apprends un nouveau dépouillement, je suis atterrée.
Je peux juste rappeler un truc quand même, c'est qu'à la base, en 1975, quand Simon Emeric Lerrière, je crois, a défendu le projet de loi sur la création de la sécurité sociale des artistes auteuristes, la contribution au tout début du régime a été à 3,3%. Elle est redescendue à 1,1%, enfin peut-être à 1 avant, mais c'était à la demande du comité professionnel des galeries d'art. les diffuseurs là dont je parle et que moi je vois aussi, enfin actuellement, des fois j'arrive dans des collectivités qui n'ont jamais réglé la contribution diffuseur, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire en fait. C'est une lourdeur administrative quand même sur des équipes, alors pas quand je vais dans un établissement public territorial qui a suffisamment de personnes, mais dans des associations, même dans des fracs, en fait, c'est une lourdeur administrative. Et voilà, qu'il faut quand même avoir en tête, quoi, pour des très petites équipes qui n'ont jamais été formées aussi à ce genre de problématiques.
Avec le collectif Labuse, on a une asso pour avoir un compte en banque. Des fois, on se paye. Donc, on fait la déclaration. Si, par exemple, ce n'est pas notre cas, on a beaucoup moins de budget que ça, mais on paye 20 000 euros sur une année, si on se paye 20 000 euros, on fait des factures pour des conférences, des textes et tout, il faut savoir que la totalité de la contribution diffuseur sur l'année, ça va être 220 euros. Donc on parle de gens qui sont en train de se battre pour ne pas payer ça. Et ces structures et ces institutions passent leur temps à verser des larmes de crocodile en disant « comment on peut aider les artistes ?» C'est indécent. Voilà. Il y a ce mythe dans les... Je vais arriver au syndicalisme à la fin de mon propos. Il y a ce mythe dans le champ des arts visuels qui nous dit que nous sommes tous des actrices des arts visuels. Bernard Arnault, c'est un acteur des arts visuels, comme moi, je suis un acteur des arts visuels. Et donc, on est commandé quelque part par un intérêt supérieur, l'intérêt des arts visuels. Et donc, on est tous ensemble. On est tous ensemble et on tire tous dans le même sens. C'est absolument faux. Voilà. Il y a des tensions, il y a des lignes de partage, il y a des intérêts divergents, comme dans tous les secteurs, de travail. Et il s'agit non pas de mener une guerre absurde et aveugle en permanence contre tous les diffuseurs, c'est pas la question, mais il s'agit de bien comprendre qu'il y a ce genre de tension, que nos intérêts ne sont pas toujours convergents, voire avec certaines structures toujours divergents, et qu'il faut s'organiser. Et le ministère, alors ça, je ne veux pas impliquer les organisatrices de la journée dans ce propos, hein, mais par contre, je peux parler au nom de mon collectif Labuse. Il faut savoir que le ministère, administration centrale, sur ces questions de statut, est notre adversaire. Total. Ce sont des traîtres. Voilà. Quand ils nous reçoivent, on a raison. On a toujours raison, on est formidable. Mais par contre, les pratiques et la politique publique qui est impulsée, c'est vraiment une politique publique qui va à l'encontre exacte de tout ce qu'on propose ici. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc, il ne faut surtout pas attendre une bonne politique publique de l'État en matière de culture. Il faut s'organiser, nous-mêmes. Le syndicalisme est un outil essentiel pour ce faire et construire nos voies et les politiques publiques qu'on juge bonnes et ne pas attendre surtout, et surtout pas du ministère de la Culture, administration centrale, que ça se passe. Ça n'arrivera jamais.
Merci Aurélien. Alors, du coup, ça, naturellement, ça me fait réagir, effectivement, y compris de comment on va gagner ce progrès social. Ce sera l'objet de la prochaine table ronde. Vous voyez, ça monte crescendo. Mais c'est exactement la question qui est posée, c'est la question de la valeur de votre travail, et pas uniquement donc de son œuvre, mais y compris de tout le temps qu'il y a autour. Mais il faut aussi se mettre en perspective que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, quel que soit son domaine d'activité, il a aussi cette revendication d'avoir des droits attachés à sa personne et non plus soumis au patronat, au capital. Donc ça c'est des projets qui sont ambitieux, qui sont en ce sens révolutionnaires dans le sens où ils souhaitent transformer les choses. C'est pas encore quelque chose d'abouti et c'est pas non plus une fin en soi, mais c'est des choses qui sont en tout cas à conquérir. Et face aux nombreuses attaques, effectivement, là-dessus je partage que les ministères, moi je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je travaille sur les réseaux de distribution électricité et gaz, donc on a aussi un ministère de tutelle, et ça fait des décennies et des décennies qu'effectivement on n'est pas aidé, mais on ne le sera qu'en s'aidant et en s'organisant nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, que vous souhaiteriez poser à nos invités? Oui.
Bonjour. Je voudrais savoir, pour les gens qui ont l'allocation handicapé, voilà, qui est à peu près vers 970 euros. Comment ça se passe, du coup, financièrement? Parce que je suis photographe, plasticien, et du coup, je suis aussi avec une photographe et qui ont l'âge. Donc, du coup, comment ça se passe, ceux qui ont l'âge? Est-ce que ces travails, ils parlent l'âge, ou ça cumule, ou pas ? C'est la question un peu... Parce que c'est très intéressant ce que vous dites à la RSA. Mais la hache, c'est... J'aurais savoir la réponse. Ce serait intéressant.
Je voulais pas intervenir là-dessus, mais j'ai des éléments de réponse. Je ne répondrai pas techniquement à cette question parce que les textes ont évolué et je ne suis pas au courant des dernières évolutions. Ce qu'on avait autrefois, on avait évidemment la hache qui était conditionnée au foyer et heureusement depuis le 1er novembre, elle est maintenant à la personne. On a eu au SNAP plusieurs cas des situations d'artistes-auteurs bénéficiaires de l'AAH qui voyaient leur AAH supprimée dès l'instant qu'ils déclaraient une activité d'artiste-auteur. C'est illégal. En réalité, c'est à partir d'un certain seuil de revenus que l'AAH n'est plus perçue. Donc je pense que l'AAH, si les textes n'ont pas évolué défavorablement, elle est due à la personne tant que par les revenus d'artiste-auteur, eh ben, si ces revenus d'artiste-auteur sont importants, l'AAH n'est pas due. Mais si les en dessous d'un certain seuil, l'AAH est due, et je n'irai pas plus loin dans la précision parce que je n'ai plus en connaissance cette précision. Et j'avais en fait juste levé la main pour autre chose, c'était par rapport au diffuseur. Le passage du 3% à 1%, si tu t'en souviens Irène, c'est l'époque où le gouvernement a mis en place l'application de la directive européenne sur le droit de suite, et pour qu'on ait le droit de suite en France, on a dû abandonner les 2% de cotisation diffuseur. C'est en gros, ils nous accordaient le droit de suite à la condition de réduire de 3 à 1% la contribution diffuseur. C'est les années 2010 ou 2008.
Non, mais je voulais juste préciser là sur la contribution diffuseur, parce que, enfin, je ne sais pas si ça a été très clair, mais après, je parle peut-être d'un prisme biaisé. Je parle de mon endroit, évidemment. Mais je forme, je pense, une quarantaine de personnes travaillant dans des structures de diffusion par an environ. Donc, c'est plutôt des structures institutionnelles, c'est-à-dire des associations subventionnées, des collectivités territoriales. C'est des villes, des régions, des fois des départements, ou des personnes qui travaillent dans des fonds régionaux d'art contemporain ou des centres d'art. J'ai formé une fois une structure privée, c'était le Palais de Tokyo. Mais toutes ces structures dans lesquelles je suis allée, je n'ai jamais rencontré une seule structure où d'un point de vue politique, ils s'opposaient à la contribution diffuseur. Enfin, ça ne m'est tout simplement jamais arrivé. J'ai plutôt croisé des gens qui n'arrivent pas... Enfin, après, c'est de leur responsabilité. Moi, je les croise en formation. Donc, c'est des gens qui vont faire l'effort de venir se former quand même. Mais qui ne savent pas juste comment traiter la diversité, les différentes évolutions du régime, etc. Ils ne savent pas comment traiter telle ou telle activité. Tout ça, c'est de leur responsabilité aussi, hein, je suis d'accord avec ça. Mais en tout cas, ce n'est jamais par volonté de ne pas cotiser. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, voilà, depuis ça fait 5 ans que je forme les diffuseurs.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Juste pour compléter, il y a aussi le problème du recensement des diffuseurs, parce que l'association Sécurité sociale des artistes-auteurs, dont je vous parlais tout à l'heure, est supposée faire le recensement, elle ne le fait pas. Donc, y a des diffuseurs qui échappent aussi tout à fait de bonne foi, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils doivent contribuer, quoi. Mais il y en a plein. Et ce travail n'est absolument pas fait. Et je pense que ça, c'est une situation qui s'est également pas mal aggravée au cours des 10 dernières années.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Bonjour. Moi, j'étais intermittente avant, et l'intermittence, ça a été créé par l'industrie du cinéma. Un peu, quand même. Non?
Pose ta question. Vas-y, déroule.
Non, mais j'ai cru qu'on... Enfin, du coup, j'ai cru que c'était par l'industrie du cinéma, et donc, du coup, une certaine pression... monétaire avec l'État, et c'est pour ça aussi que les intermittents, dès qu'il y a une manifestation, on est très 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 solidaires, et les artistes, c'est ce qui manque. Donc qu'est-ce qui pourrait faire pression pour créer un statut, parce que donc naïvement je croyais que c'était par le cinéma, mais sans pression, je me demande comment ça peut monter, quoi.
Juste par rapport aux diffuseurs qui n'arrivent pas à payer leurs cotisations, les employeurs de l'intermittence, est-ce que c'est vraiment facile de payer ces cotisations patronales? Bon, désolée, je n'ai pas trop les termes techniques, mais vous voyez ce que je veux dire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner un peu de mauvaise foi dans cette non-volonté de payer ses cotisations, parce que, je ne sais pas, on pourrait imaginer que c'est des gens qui ont des formations ou des trucs comme ça, et que, je ne sais pas, enfin, nous, en tant qu'artiste-auteur, on arrive bien à un moment ou à un autre à payer nos cotisations. Alors je me dis que... Et à faire... du coup, on fait des formations vu qu'on n'apprend pas ça à l'école. Enfin, ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner un peu de mauvaise foi?
Merci pour ces questions, Aurélien.
Oui, désolé pour la dénégation un peu vive sur la question du cinéma, mais il se trouve que c'est une version absolument fausse qui circule depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on trouve cette information qui nous dit que l'intermittence aurait été créée par les employeurs du cinéma en 36, justement pour avoir de la main-d'œuvre. Bah, c'est une version absolument qui sort de nulle part. Si vous voulez l'histoire du régime de l'intermittence, je vous conseille le bouquin de Mathieu Grégoire, qui est sociologue à Nanterre, et qui a écrit un livre qui est tiré de sa thèse, qui s'appelle « Les intermittents du spectacle, enjeux d'un siècle de lutte », et qui retrace depuis 1919 toutes les batailles, notamment des artistes du spectacle, et qui aboutissent seulement à partir de 1979. Hein. Le régime de l'intermittence est vraiment effectif à partir de 1979, à cette fameuse indemnisation du chômage. Et en fait, ce qui se passe, c'est plutôt les musiciennes et musiciens qui sont à la manœuvre au XXe siècle sur ces questions. Il ne se passe rien au cinéma, absolument rien en termes de droits sociaux, enfin rien de spécial en fait. C'est les musiciens, par une syndicalisation massive, qui vont... en disant, certes, on est musicien, musicienne, donc c'est plutôt une activité qu'on pourrait qualifier d'atypique, c'est plutôt une activité discontinue, mais ce qui est la norme dans les années 30. Hein, l'emploi permanent, ça vient beaucoup plus tard, hein, ça vient après-guerre. Et c'est elles et eux qui, en fait, en se structurant, en se syndicalisant, vont progressivement tenir cette ligne qui est « Ok, on est des artistes, mais on veut tous les droits qui sont en train de se conquérir dans le salariat, tous ». Vous arrangez comme vous voulez, mais on les veut. Et ça va aboutir à plein de choses, aux conventions collectives en 36, hein, il se passe quelque chose à partir de 37, mais c'est les conventions collectives. Ça va aboutir à l'intégration des artistes du spectacle au régime général de la Sécu en 61. Ça va aboutir aussi à leur intégration par un acte administratif qui a, pour le coup, rien à voir avec du militantisme, à l'assurance chômage en 64 et 67. C'est Chirac qui les fait rentrer dans l'intermittence, à une époque où les seuils d'accès sont tellement hauts que personne n'y a droit. Voilà, donc, bon, comme dit Mathieu Grégoire, Chirac va se prendre le retour de bâton quelques décennies plus tard. Mais sur le moment, on les met dedans par souci de faire des statistiques et d'intégrer tout le monde dans une même... tous les gens relevant du salariat dans une même entité administrative. Et c'est en 79, grâce à une bataille de la CGT, mais au niveau confédéral, qui baisse les seuils du chômage par deux. Hein, à un moment, il faut faire 1040 heures dans l'emploi sur les 12 derniers mois pour... c'est pour tous les salariés, hein, pas que les intermittents. Pour accéder au chômage, il y a une bataille de la CGT qui fait diviser par deux le seuil, et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir fonctionner ce qu'on appelle le régime de l'intermittence. Vraiment à partir de ce moment-là. Mais historiquement, ce qui s'est passé, c'est une organisation des travailleuses et travailleurs du spectacle, notamment les artistes musiciennes et musiciens, une organisation massive à partir de 1919, qui donne l'intermittence à partir des années 80. Voilà. Mais le truc de 36, il est repris dans plein d'articles. c'est une fake news absolue. Il y a rien qui parle, enfin il y a rien qui atteste ça. Sur la question de la mauvaise foi des diffuseurs, je te laisse Mathilde si tu veux.
Ouais, c'est marrant. Alors pour info aussi, là, en ce moment il y a un plan au ministère de la Culture qui s'appelle mieux produire, mieux diffuser. Ça envoie du rêve. Hein. Et du coup, une des propositions du CIPEC, qui est la Fédération des professionnels de l'art contemporain, est de réfléchir à la création d'un syndicat des diffuseurs. Non, mais en fait, moi, je pense que ça serait bien. Mais moi, en fait, c'est vrai que moi, encore une fois, quand je vous dis prenez les choses où elles viennent, c'est-à-dire que moi, je travaille principalement, finalement, dans le secteur de l'art contemporain. Voilà, donc ça m'arrive d'être en lien avec des producteurs audiovisuels, par exemple, sur certains contrats. Enfin, voilà, mais quand des artistes me sollicitent et qu'eux-mêmes travaillent des sociétés de production audiovisuelle. Mais en fait, majoritairement, je ne suis pas en lien avec, par exemple, des éditoristes. Je ne suis pas en lien avec d'autres diffuseurs autrement plus, qui ont autrement plus d'argent que les structures de l'art contemporain. Ce que moi, j'observe dans l'art contemporain, c'est que... mais on en est responsable de ça aussi. Hein. Il y a une responsabilité. C'est-à-dire que je reviens sur mon histoire de vidéaste, une structure qui met en place une résidence charge à elle d'aller chercher les fonds pour financer correctement la réalisatrice qui va faire la vidéo. Et en fait, sur cette contribution diffuseur et leur, des fois, difficulté à la mettre en œuvre, c'est que quand même, le régime est effectivement très compliqué, très complexe plutôt, et on parle de structure où il y a 2, 3, 4, allez, max 10 salariés, mais c'est pas tant si on compte les régisseuses, les médiatrices, etc. Et en fait, il y a vraiment des difficultés à mettre ça en œuvre au niveau de la masse salariale disponible. Il y a aussi une question, on en revient toujours au même truc, d'argent. Après, sur le champ administratif particulièrement, il y a quand même une unité à tous les niveaux qui est que personne ne bite rien. Et tout le monde s'en fout. Parce que l'administratif, de toute façon, enfin, moi, pour moi, l'administration, c'est moteur d'émancipation, mais pour 95% des gens que je croise, c'est chiant. Et on n'a pas envie de le faire, ces tâches-là. Et je racontais là, à midi que j'ai animé une formation qui s'appelle « Gérer les rémunérations des artistes auteuristes ». J'avais une personne qui me dit « Moi, j'étais en stage dans le centre d'art. Il y a eu une création de poste, youpi, de responsable administrative. J'étais là, j'ai eu le poste. » Et cette personne vient se former en 2 jours à un métier. Ou une personne qui vient de la restauration, qui a vu l'annonce sur Pôle emploi, elle a candidaté, elle est devenue administratrice d'une association dans l'art contemporain, elle ne connaît ni le secteur, ni le métier. Et voilà. Donc une personne comme ça, oui, c'est sûr que faire ses déclarations sur le site de l'URSSAF Limousin, ça va être compliqué.
Merci. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Donc vous aurez ensuite un petit temps pour souffler, y compris si vous avez d'autres besoin de poser des questions, etc. On prend encore 2-3 questions. Allez, ça marche. Vas-y, Irène.
Je voudrais juste apporter un embryon de réponse à la personne qui disait qu'est-ce qu'il faut faire, parce que chez les intermittents, on est très combatifs, tralala, tralala. Eh bien, ils sont beaucoup plus syndiqués que les artistes auteurs. Donc, syndiquez-vous. Hein, syndiquez-vous au SNAP, syndiquez-vous au STAB, mais syndiquez-vous. Et puis diffusez. Cette brochure, déjà, lisez-la. Aurélien vous a raconté un peu ce qu'il y avait dedans. Mais moi, je ne sais pas, partout où j'en parle, les gens, enfin, surtout chez les jeunes, moi, j'ai des élèves qui ont entre 20 et 30 ans, elles sont tout de suite, elles sautent dessus, quoi. Ah oui, je la veux. Donc, on en a plein. Prenez-en, diffusez-en, parlez-en autour de vous et syndiquez-vous. Voilà, c'est pas... gagner, mais c'est un pas vers la victoire.
Moi, c'était pas vraiment une question, c'était pour apporter un élément de réponse à ce dont on a parlé à l'instant, pour compléter ce que disait Aurélien sur les années 30-36. Nous, en 36, il y a Jean Zay, ministre, un équivalent de ministre de la Culture, qui propose un projet de loi pour nous faire conquérir tous ces droits qui sont en train d'arriver, que les musiciens, musiciennes arrivent à conquérir, et nous faire passer de propriétaire à travailleur, travailleuse. Et sauf que, bon, en 36, il y a une très forte mobilisation de la part des maisons d'édition. Gros combat, la guerre arrive, c'est plus la question. Jean Zay se fait tuer par les milices vichistes. Et la loi de 56 consacre le droit d'auteur, l'édition, etc. Donc en fait, nos adversaires, c'est les mêmes aujourd'hui. Quand on parle des diffuseurs pardon, qui ne veulent pas payer, c'est pas le petit centre d'art de Toulouse ou de Paris, c'est pas le FRAC. Non, c'est les maisons d'édition et c'est ces diffuseurs-là qui ont énormément d'argent et qui ne veulent vraiment pas mettre la main à la poche. Donc là, on est dans une journée où on parle effectivement beaucoup des arts visuels, mais non, il faut s'ouvrir. Le régime artiste-auteuriste comporte beaucoup de métiers, beaucoup de diffuseurs différents, et évidemment, nos intérêts ne sont pas les mêmes.
Et il faut vraiment avoir à cœur de s'emparer de ces questions qui sont certes administratives dans leur application, mais qui sont fondamentalement politiques et qui concernent, qui concernent des enjeux de démocratie, en fait. C'est fondamental. Quand on commence à travailler, alors il y a le syndicalisme, c'est essentiel, vraiment essentiel. C'est l'outil du peuple. Et il y a aussi l'action politique, on va dire citoyenne. Nous, comme on commence à travailler avec des groupes politiques, puisqu'il y a des implications législatives dans ce qu'on fait, on rencontre donc les personnes qui sont en charge de la culture dans ces partis et qui nous disent « mais faites du lobbying, en fait, engagez-vous, parce qu'en face, ils en font en permanence, que ce soit au Parlement européen ou au Parlement national, ils sont en permanence en train de bosser et de donner des chiffres aux élus pour que le statut ne bouge pas ». En disant, ah non, on ne peut pas bouger parce que vous comprenez, si, je ne sais pas, par exemple, on augmente la contribution diffuseur, l'économie de la création va s'effondrer. Donc voilà un rapport qui vous montre que ça va s'effondrer. Donc ne bougez pas. Et ils le font en face. Donc il faut avoir conscience de ça. Hein. La SACEM, par exemple, c'est un organisme qui fait du lobbying en permanence à l'échelle européenne pour que rien ne bouge et pour qu'elle garde le pouvoir sur l'économie de la création. Il faut savoir ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, donc ce ne sera pas une question, je me présente, je suis Pamela Dorival, je suis artiste plasticienne et je suis aussi présidente de la FRAP, donc Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens et plasticiennes. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur les diffuseurs. La FRAP, c'est une fédération qui représente les associations d'artistes. Les associations d'artistes sont des diffuseurs associatifs. Et donc, au niveau de la question des diffuseurs, il n'y a pas que les méchants diffuseurs qui ne veulent pas payer leurs contributions. Ce qui pose problème au niveau de cette question de contribution diffuseur, c'est surtout qu'en fait, la question du diffuseur n'est pas nette. En fait, dans les textes de loi, le diffuseur, et qu'est-ce que c'est que l'acte de diffusion, n'est pas clairement précisé. Il y a eu tout un débat sur ce que c'était que la diffusion et en quoi la diffusion, elle était associée au fait d'être monétairement impacté. Donc si on fait une exploitation commerciale de l'œuvre de l'artiste ou de son travail artistique, là il y avait une question de diffusion. Et c'est ce flou artistique autour de la question de la diffusion qui pose problème en fait sur la contribution diffuseur. À partir du moment où en fait la contribution diffuseur serait nettement et clairement expliquée et définirait la gamme des diffuseurs, ça réglerait en partie cette problématique du 1,1%. Parce qu'effectivement le 1,1% il est ridicule. Vous l'avez dit, c'est une hauteur qui correspond à des toutes petites sommes en fonction des budgets et que les personnes qui s'y opposent ne sont pas forcément toujours les diffuseurs. Parce que même au sein du CIPAC, en fait, le CIPAC s'est aussi mis d'accord pour que cette contribution diffuseur elle soit défendue parce qu'elle alimente justement tout ce qui est vieillesse, retraite et toute l'aide qui peut être apportée aux artistes auteurs.
Je me permets de compléter. À Rouen Résidence, par exemple, on a un réseau membre du CIPEC de la Fédération nationale. Je ne veux pas parler pour eux, mais c'est vraiment, encore une fois, ce que moi, j'en ai compris, et ça ne les engage en rien. Néanmoins, il me semble qu'ils ne se sont pas sentis représentés par le CIPEC à ce moment-là sur la question de la contribution des diffuseurs. Qui a eu quand même, ça a été très difficile aussi, visiblement, hein, un peu de faire ce travail de représentation politique des membres lors des commissions professionnelles qui ont précédé la parution de cette circulaire. Sur la question de l'exploitation commerciale, parce qu'il y a eu un doute à un moment donné, qui était purement un doute de juriste dans la formulation, puisque en fait, ce que la circulaire dit, c'est rien de plus et rien de moins que ce qu'il y avait dans le code de la sécurité sociale depuis le début, pour la bonne et simple raison que le texte, en fait, sur la contribution diffuseur n'a jamais évolué, alors que les activités artistiques ont évolué et qu'on est resté bloqué sur le texte quasi équivalent au moment de la création de la loi. Donc en fait, oublie. Enfin, j'ai mentionné la question d'un syndicat diffuseur. Moi, je pense que ça serait important, et je pense effectivement aux petites structures pour à un moment donné. Enfin, il va falloir travailler là-dessus, et la FRAP et le CIPAC qui ont jusqu'alors participé à ces commissions, visiblement, n'ont pas. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'y étais pas, mais réussi à faire valoir la voix de ces structures-là. Enfin, je trouve qu'il faut quand même le dire, en fait, à un moment donné. Enfin, le pourquoi du comment, bah, ça, c'est peut-être un autre problème. Et Pamela, je crois que tu interviens dans la table ronde juste après et que, du coup, tu pourras sans doute le préciser. Mais il faut quand même le mentionner.
Merci, Mathilde. Alors, avant de conclure, je voulais réagir aussi, même si moi, effectivement, je regarde ça avec un statut qui est le mien, c'est un statut de salarié, etc., et qui ne connaît pas forcément votre domaine d'activité. Il y a deux ans, il y a eu une lutte des camarades de la presse qui distribuent la presse, pareil, partant du principe que la presse, elle doit être accessible à toutes et à tous, peu importe où on habite, que ce soit en centre-ville ou en haut d'une montagne, parce que c'est un élément décisif pour être citoyen et pour que s'exerce la démocratie. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se construire, il y a beaucoup de luttes à mener. Et effectivement, nous, on a l'habitude de dire qu'on part toujours des besoins. Et on l'a dit en introduction, que la culture, c'est un besoin pour pouvoir s'émanciper par la culture, être libre par la culture. Donc tout ça, ça va nécessiter d'acquérir de nouveaux droits. Donc il y a des brochures effectivement qui sont disponibles, et il va falloir qu'on dépasse, y compris la question des moyens financiers, parce que les moyens financiers, le capital, il en regorge massivement, et donc il va falloir aller les chercher. Et surtout, c'est avec ce que disait Aurélien tout à l'heure, syndiquez-vous, ce que disait Irène, syndiquez-vous, c'est prenons nos affaires en main. Et y compris, une fois que vous, les travailleurs de l'art, vous serez organisés, nous, qui ne sommes pas travailleurs de l'art, nous devrons être avec vous pour faire valoir vos droits, parce que moi, en tant que travailleur de l'énergie, par exemple, eh ben, j'ai besoin de l'art pour m'émanciper, etc. Donc c'est une vraie bataille collective qui est à mener. Et ça va introduire d'ici une vingtaine de minutes la prochaine table ronde qui sera sur les luttes. Alors les luttes en cours et les luttes à venir, notamment autour de France Travail et des écoles d'art et de design qui sont en danger. Donc on aura plusieurs intervenants qui seront là et qui se présenteront tout à l'heure. Voilà, je vous remercie et je remercie nos intervenants Aurélien, Mathilde et Irène. Merci.